Mesdames et messieurs, je vous laisse suivre à présent la conférence hebdomadaire des Nations Unies avec Carlos Araújo, porte-parole de la MONUSCO.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, membres de la presse, auditeurs de Radio Capi, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. Au sommaire de cette conférence de presse des Nations Unies en RDC, nous aurons les activités des composantes de la MONUSCO, les activités de l'équipe pays, Joseph Potopoto pour le développement et Yvon Edmundou pour l'humanitaire, qui est dans la salle au cas où vous auriez des questions à lui poser. Et le colonel Félix Prosper Bass nous donnera quelques éléments d'information sur la situation militaire. Nous avons également deux invités dans la salle, le directeur adjoint du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdulaziz Tioy, qui va nous présenter le point de la situation des droits de l'homme au cours du mois de juillet de 2014. Il est docteur Mukinda, chargé de la préparation, la gestion et la riposte aux flambées et catastrophes à l'OMS, qui va répondre à vos questions concernant l'épidémie d'Ebola. Nous commençons pour vous annoncer que l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinit, effectue du 27 au 29 août une visite officielle en RDC. Sa visite rentre dans le cadre de sa première tournée qu'il a débutée dans la région des Grands Lacs depuis le 20 août et qui va jusqu'au 15 septembre 2014. À Kinshasa, Saïd Djinit rencontrera les responsables de la MONUSCO, les agences des systèmes des Nations Unies, certains membres du gouvernement, du corps diplomatique, de la CENI et de la société civile. Une rencontre est également prévue avec le président de la République, Joseph Kabila. Au terme de sa visite, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs animera une conférence de presse ce vendredi 29 août à 11h au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa dans cette salle. Vous y êtes tous conviés. Appui à l'administration pénitentiaire à Kabare, dans la province du Sud-Kivu, la section d'appui à l'administration pénitentiaire a accompagné le directeur de prison et les administrateurs locaux pour une visite pour la visite d'un terrain appartenant à la prison, mais qui a été occupé par des personnes non autorisées. La section a conseillé le directeur de prison et les administrateurs de démarquer et de délimiter le terrain en vue de prévenir des incidents similaires à l'avenir. La section d'appui à l'administration a mené des activités destinées à renforcer la sécurité dans les prisons afin de prévenir des évasions. Dans la prison de Goma, une fouille spéciale a été menée avec la participation de la section d'appui à l'administration pénitentiaire, de la police des Nations Unies, INPOL, de FRDC, PNC et de la garde républicaine. Protection de l'enfant. Au cours de cette semaine, la section de protection de l'enfant a documenté 17 enfants qui ont été victimes directes des conflits liés à la violence. 8 garçons se sont échappés des groupes armés, 3 filles violées, 3 garçons enlevés et 3 garçons associés des groupes armés qui avaient été détenus par les FRDC. L'échappement, abandon d'enfants et d'adultes du groupe armé ADF est toujours en cours. L'effort conjoint des FRDC et de la MONUSCO, dans le cadre de l'opération sauvetage qui a commencé le 15 août pour protéger les dépendants des combattants ADF, en particulier les femmes et les enfants, a conduit à l'évacuation par les FRDC et la MONUSCO d'une mère et de ses deux enfants, ainsi que 4 autres enfants du parc de Virunga à Beni. Ils étaient sévèrement malnutris et l'état des deux d'entre eux reste critique. Ils sont tous à l'hôpital de Beni où ils reçoivent un traitement médical. Police de la MONUSCO. La police de la MONUSCO a procédé pendant la semaine qui vient de s'achever à la sensibilisation massive des femmes du sous-secteur de Maragui au dépistage volontaire du VIH. Au total, 190 femmes ont été sensibilisées, entraînant une hausse du taux de dépistage volontaire à 29 contre 9 la semaine précédente. Eu égard de cette adhésion encourageante, INPOL continuera à œuvrer pour que la population puisse prendre conscience de ce mal. Toujours pendant la semaine écoulée, et face à l'ampleur des violences sexuelles enregistrées à l'est de la RDC depuis le premier semestre de 2014, la police de la MONUSCO a organisé une séance de renforcement des capacités des 24 membres du personnel féminin du camp Rudia 2 des FRDC à Dungu sur les thèmes « Les causes et conséquences des violences sexuelles en RDC et les bases légales de la lutte contre les violences sexuelles en RDC. Je passe la parole maintenant à Joseph Potopoto pour les nouvelles sur le développement.
Merci Carlos. D'abord l'UNICEF, après le Bas-Congo, le Bandundu et Kinshasa, le province du Kasaï oriental et Kasaï occidental bénéficient à leur tour de matériel et équipements remis par l'UNICEF au projet d'équipement des structures sanitaires. C'est la représentante adjointe du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en République démocratique du Congo en personne, Madame Sylvie Fouette, qui a procédé le 23 août dernier à la remise officielle de matériel et équipements médico-sanitaires, ambulances et médicaments au ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, le docteur Félix Kabangenumbi, dans le cadre de ce projet. Ces matériels et équipements acquis dans les cadres de phase 1 et 2 du programme PESS, dont le coût global s'élève à 40 milliards de francs congolais, ont été achetés grâce aux fonds propres du gouvernement de la République démocratique du Congo via la centrale d'achat de l'UNICEF à Copenhague. Toutes les 11 provinces de la RDC bénéficieront de ces matériels et équipements. La deuxième information sur l'UNESCO, et elle concerne le journaliste. Plus de 600 journalistes et professionnels des médias ont été tués au cours des 10 dernières années. Ainsi, chaque année, en moyenne, un journaliste... Ainsi, chaque semaine, en moyenne, un journaliste perd sa vie pour donner des nouvelles actualités et des informations au public. Pour en finir avec la violence contre les journalistes et pour lutter contre l'impunité, le 2 novembre de chaque année sera désormais une date importante pour les journalistes. La communauté internationale commémorera pour la première fois, et ce sera le 2 novembre 2014, la journée internationale contre l'impunité pour les crimes commis contre le journaliste. La journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution à /RES/68/163 du 18 décembre 2013. Cette résolution historique condamne toutes les attaques et la violence contre le journaliste et travers les médias. Il exhorte également les États membres à faire tout leur possible pour prévenir la violence contre les journalistes et les professionnels des médias afin d'assurer la reddition des comptes, à traduire en justice les responsables des crimes contre les journalistes et travailleurs de médias et veiller à ce que les victimes aient accès à des recours effectifs. La date coïncide également avec l'assassinat de deux journalistes français, les journalistes Ghislain Dupont et Claude Verland, le 2 novembre 2014. L'UNESCO a été chargée de la coordination générale de la commémoration de cette journée en consultation avec les parties prenantes concernées. À cet égard, il est prévu plusieurs événements pour sensibiliser le monde entier à cette journée. Merci.
Merci beaucoup, Joseph. Le colonel Félix Prosper Bass nous donne maintenant quelques éléments d'information sur la situation militaire.
Merci, Carlos. Bonjour à tous. Donc nous commençons par l'ouest de la République démocratique du Congo, où l'environnement sécuritaire a été jugé relativement calme durant la semaine écoulée. En province orientale, le climat sécuritaire reste marqué par la recrudescence des activités négatives des éléments résiduels de la LRA dans les districts de Haut et de Bas-Ouélé, notamment Nakwa. Face à cette menace, les forces onusiennes et congolaises poursuivent avec détermination la conduite de leurs opérations conjointes visant à y mettre un terme pour la sécurité des populations civiles. Au nord Kivu, un calme relatif toutefois imprévisible a été observé pendant la période sous examen dans l'ensemble des territoires de cette province. Dans le territoire de Beni, la force de la MONUSCO continue de soutenir les troupes de l'armée congolaise engagées dans les opérations de bouclage et de ratissage contre les éléments résiduels de l'Alliance des forces démocratiques ADF, et ce dans le cadre de l'opération Sokola 1. Des opérations ont également été lancées par les troupes gouvernementales contre les positions des différentes factions Maïmaï, actives sur l'axe Ngora-Iseya-Ntoto, ainsi que dans les localités de Ntoto, Mua et Langira, dans le but de les neutraliser et de restaurer l'autorité de l'État congolais dans cette partie du pays. Dans le territoire de Lubero, dans la nuit du 23 août 2014, deux motocyclistes et un autre individu ont été tués à Lubero Centre par trois éléments armés non identifiés. Cet incident a provoqué des manifestations de colère d'environ 600 motocyclistes devant la mairie de Lubero. informé. Le poste opérationnel de la force de la MONUSCO, basé dans la région, a immédiatement déployé une patrouille d'intervention rapide sur le terrain dans le but de stabiliser la situation et protéger les populations civiles. À Goma, le 23 août 2014, des éléments armés non identifiés ont abattu un motocycliste et deux membres de sa famille dans le quartier Majengo. Cet incident a provoqué le 25 août 2014 des manifestations organisées par les motocyclistes opérant dans la ville de Goma pour protester contre l'insécurité prévalant dans la ville. La situation sécuritaire est cependant revenue sous le contrôle de la police nationale congolaise. Les 22 et 24 août 2014, les casques bleus de la force de la MONUSCO déployés aux postes opérationnels de Tiengerero et de Katale ont découvert deux caches renfermant des armes de gros calibre et des munitions. Il s'agit de trois canons antiaériens, un canon d'artillerie, un lance-roquettes, deux mitrailleuses de 12,7 mm, 11 armes AK-47, 4 armes AK-56 et 5 caisses de munitions AK de 7,62 mm. Au chapitre des redditions, nous avons enregistré au cours de la semaine écoulée 10 redditions en provenance de différents groupes armés, notamment 6 des Forces démocratiques de libération du Rwanda, 3 du groupe Maïmaï Tcheka Nduma Défense du Congo et 1 du groupe Forces de défense congolaise. Au sud Kivu, l'environnement sécuritaire demeure sous le contrôle des forces onusiennes et congolaises. En effet, les troupes FRDC ont, pendant la période sous examen, lancé des opérations contre les groupes armés et les éléments Maïmaï, auteurs de nombreuses exactions contre les populations civiles à Lubishaku, et ceci c'est à 25 km au sud-est de Lulimba, à Kitutu, à 90 km au sud-est de Mwenga, et ils ont aussi appréhendé 4 insurgés. Ainsi, à l'issue de violents combats ayant duré plusieurs jours, l'armée congolaise a repris le contrôle de la localité de Penekusu, située à 120 km au sud de Shabunda, où elle a délogé les éléments Maïmaï Rahia Mutomboki, appartenant aux factions Alexandre et Charles Quint. Au Katanga, le climat sécuritaire, quoique calme, a été cependant marqué par les opérations de l'armée congolaise contre les groupes armés actifs dans cette province. En effet, le 20 août 2014, les troupes de la force navale des FRDC ont repris le contrôle de toutes les positions situées le long de la franche côtière du lac Tanganyika, au nord de Kalemi, occupée depuis le mois de juillet 2014 par les éléments affiliés au groupe Maïmaï Yakutumba. Le secteur 2, quant à lui, est très calme, et concernant les statistiques de nos patrouilles, nous en avons mené 1932 armées et 537 nocturnes, et avons fourni 52 escortes pendant la période sous examen. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, colonel Bass. Je donne maintenant la parole au directeur adjoint du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdelaziz Tioy, qui va nous présenter le point de la situation des droits de l'homme au cours du mois de juillet 2014.
Merci, Carlos. Au cours du mois de juillet 2014, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 171 cas de violation des droits de l'homme sur le territoire de la RDC, ce qui représente une baisse par rapport au mois de juin 2014 où nous avions enregistré 228 violations. En général, le nombre de victimes qui ont résulté de ces violations a connu une baisse considérable au cours du mois de juillet 2014, passant de 619 victimes à 394, soit une baisse de 36%. À l'instar des mois précédents, les provinces les plus touchées restent les provinces de l'Est de la RDC, notamment les provinces du Nord Kivu pour 76 violations, la province orientale pour 35 violations et la province du Sud Kivu pour 16 violations. Toutefois, ces trois provinces ont connu une diminution du nombre de violations des droits de l'homme par rapport au mois de juin 2014. En ce qui concerne les provinces de l'Ouest du pays, le Bureau conjoint a enregistré une légère diminution du nombre de violations des droits de l'homme par rapport au mois de juin 2014, passant de 48 à 44 violations. Au cours du mois de juillet, nous avons, conjointement avec la section de protection de l'enfant de la MONUSCO, documenté 96 cas d'enfants victimes de conflits. Pour ce qui est des auteurs, les agents de l'État appartenant à divers, notamment aux forces de défense et sécurité, auraient été responsables d'environ 65% du nombre total des violations des droits de l'homme enregistrées par le bureau en juillet 2014. Ce chiffre a connu une diminution par rapport au mois de juin 2014, passant de 130 à 111 violations. Cependant, ce chiffre a connu une diminution par rapport au mois de juin 2014, passant de 130 à 111 violations. Cependant, le nombre de victimes de violations des droits de l'homme enregistrées au mois de juillet 2014 a connu également une légère augmentation par rapport au mois de juin 2014, passant de 230 à 245 victimes. En particulier, les militaires des FRDC auraient été responsables de 35% du nombre total des violations des droits de l'homme, alors que les agents de la PNC auraient été responsables de 27% du nombre de violations documentées par, par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. En ce qui concerne les combattants des groupes armés, ils seraient responsables de 60 violations, soit 35% du nombre total des violations des droits de l'homme enregistrées au mois de juillet par le Bureau, ce qui représente une légère diminution par rapport au mois précédent, où nous avions enregistré 98 cas de violation. En juillet 2014, le Bureau a relevé également 5 cas d'atteinte aux droits de 5 défenseurs des droits de l'homme et de 4 opposants politiques dans le pays, ce qui représente une diminution par rapport au mois de juin 2014, où nous avions noté 7 cas d'atteinte aux droits de 7 défenseurs des droits de l'homme, de 3 journalistes et de 21 opposants politiques. Ceci est la situation des droits de l'homme pour la RDC pour le mois de juillet, qui n'a pas pour vocation d'être exhaustif. Nous ne communiquons que les cas qui ont fait l'objet de vérifications et qui sont documentés par nos propres services. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Abdelaziz. Nous nous excusons pour quelques problèmes techniques qu'on a connus pendant la présentation sur la situation des droits de l'homme. Et je vous rappelle que tous les détails de toutes ces interventions seront dans le verbatim et aussi sur le site de la MONUSCO. On va passer maintenant.